Très bon réveil à l'écoute de RFI, 4h en temps universel, il est 6h ici à Paris. Bonjour Simon Bourtembourg.
Bonjour Arthur, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure avec le journal pour commencer. À la une, cette trêve pas vraiment respectée en Ukraine. Kiev dénonce une violation du cessez-le-feu pourtant annoncé par Moscou à l'occasion de Pâques. Si la Russie est prête à vraiment s'engager, l'Ukraine fera de même, assure Volodymyr Zelensky. Reportage à suivre à Rajar, à cheval entre le Liban et le plateau du Golan. Ce petit village a été annexé totalement en 2006 par Israël, l'État hébreu qui continue d'étendre son occupation depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Dans cette édition également, en Tunisie, le verdict du procès pour complot contre le président qui suscite de vives réactions. Les 40 accusés ont écopé de peines allant de 4 à 66 ans de prison. Une parodie de justice, nous dira l'un des porte-parole du Human Rights Watch. Et puis, en France, elle n'a pas fini d'arborer sa veste verte sur les plateaux de télévision. Marine Tondelier a été réélu à la tête des écologistes. Une alerte anti-aérienne a retenti hier soir à Kiev. Vladimir Poutine venait pourtant d'annoncer une trêve pour Pâques que l'Ukraine s'était engagée à respecter. Le président ukrainien, en allant fouler, accusait Moscou de violer ce cessez-le-feu qui était censé entrer en vigueur hier à 17h heure de Paris. Volodymyr Zelensky avait lui proposé de prolonger l'arrêt des combats au-delà de lundi. À Kiev, la correspondance d'Emmanuel Chaz.
30 heures de cessez-le-feu sont suffisantes pour faire les gros titres, mais pas pour des mesures qui permettent de mettre en place la confiance. Ce sont avec ces mots que Volodymyr Zelensky a proposé un cessez-le-feu d'au moins 30 jours, en réponse à l'annonce unilatérale russe d'un cessez-le-feu le temps du week-end de Pâques. Un cessez-le-feu bien temporaire, censé débuter à 18h, heure locale ce samedi, et finir à minuit le 21 avril. Du côté de la présidence ukrainienne, on précise que Kiev est prête à respecter un arrêt des combats, si la Russie est sérieuse à ce propos, mais que l'Ukraine répondra si cet accord est violé. Une réponse donc prudente côté ukrainien, où on est habitué à ce genre de sortie côté russe et surtout à la violation des accords conclus entre les deux pays. Face à l'emballement qui fait suite aux propos de Vladimir Poutine, et puisqu'aucun signe d'apaisement n'est parvenu de la ligne de front et que les sirènes ont retenti plusieurs fois au-dessus de la capitale ukrainienne, annonçant la présence de drones russes, l'Ukraine est sceptique mais montre qu'elle est prête à considérer un arrêt des combats si son agresseur en fait réellement de même. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
La guerre contre le Hamas est dans une phase décisive. Déclaration de Benjamin Netanyahou qui défend sa stratégie face aux pressions de plus en plus fortes. La principale association militant pour la libération des Israéliens retenus à Gaza a une nouvelle fois réclamé un accord avec le Hamas pour obtenir leur retour. La réponse du Premier ministre israélien est claire. Il s'est dit convaincu de pouvoir ramener les otages encore aux mains du Hamas sans céder aux diktats du mouvement islamiste. Palestinien. Le ministère de la Santé de Gaza annonçait un peu plus tôt que les frappes israéliennes dans la bande de Gaza avaient fait plus de 90 morts en 48 heures. La guerre dans la bande de Gaza donc suivie de très près à Rajar, un petit village alaouite, jadis pris par Israël à la Syrie et désormais à cheval sur la frontière israélienne avec le Liban. Pendant 22 ans, ce village était une zone militaire quasiment impossible d'accès aux visiteurs étrangers. Eh bien aujourd'hui, ses habitants, devenus israéliens dans les années 80, revendiquent vouloir vivre avant tout en paix. Reportage à Rajar, signé Abla Junaidi.
À Rajar, les habitants se saluent en montrant la paume de la main, signe de paix. Effie, touriste originaire de Haïfa, la grande ville du Nord, y est sensible.
On est venu voir l'endroit, les gens, leur culture. On est en Israël, c'est calme. Juste derrière la rivière Asbani, c'est le Liban.
Avant qu'Israël ne le prenne pour de bon en 2006, le nord du village avait été dévolu au Liban par l'ONU. Pile sur la ligne bleue, Ahmed tient une boutique de pâtisserie.
Ici, c'est le point qui sépare Israël et le Liban. Nous, les villageois, on s'est opposés à la partition. Personnellement, moi, je me sens israélien. Parce que je ne suis pas né en Syrie. Mon père et mon grand-père sont nés en Israël.
Même avant la guerre lancée en octobre 2023, le Hezbollah n'a eu de cesse de tenter de réinvestir la zone. Mais pour le jeune Yahya, la fidélité à Israël ne se discute pas.
On ne mord pas la main qui nous nourrit. Ici, pendant la dernière guerre, on avait de l'électricité en permanence. Mon deuxième enfant a subi une opération qui aurait dû me coûter 300 000 shekels, plus de 70 000 euros. Je n'ai rien payé. Voilà pourquoi je ne peux pas m'élever contre l'État israélien.
Citoyens israéliens donc, certains habitants de Rajar ne suivent pas moins avec effroi ce qui se passe en Syrie, où nombre de leurs coreligionnaires, les Alaouites, ont été arrêtés, voire massacrés. Abla Junaidi, Rajar à la frontière israélo-libanaise, RFI.
En République démocratique du Congo, la retenue semble de mise après l'apparition vendredi de Joseph Kabila à Goma. On ne sait pas si l'ancien chef de l'État se trouve toujours dans la ville sous contrôle de la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. Quoi qu'il en soit, en attendant, une prise de parole de Joseph Kabila, le pouvoir, l'opposition et la société civile retient son souffle. Un conseiller diplomatique de celui qui a dirigé la RDC de 2001 à 2018 promet déjà un discours qui fera date. Un jugement prononcé sans un réel procès. En Tunisie, les organisations de défense des droits de l'homme sont mécontentes et le font savoir. C'est le cas notamment de Human Rights Watch qui, comme toutes les autres associations, n'a pas pu assister à la dernière audience du procès pour complot contre le président Kais Saied. Les 40 accusés ont écopé de peines allant de 4 à 66 ans de prison. Un retour en arrière de la démocratie tunisienne, nous dit Ahmed Benchemsi, il est porte-parole du Human Rights Watch pour le Moyen-Orient. Et l'Afrique du Nord.
C'est une parodie de justice, c'est une hérésie judiciaire et c'est une confirmation ultime, s'il en fallait, que la Tunisie, sous le président Saïd, a dérapé vers l'autoritarisme le plus débridé. De nombreuses, très nombreuses règles qui garantissent un procès équitable ont été violées pendant que le procès avait lieu. Quant au fond, écoutez, on a consulté, quand je dis nous, c'est Human Rights Watch, nous avons consulté les 140 pages de l'ordonnance de clôture du juge d'instruction et on n'a absolument rien trouvé qui substancie ces graves accusations d'attenter à la vie du président. Et il y a aussi une formule que je trouve assez audacieuse. Et ils sont inculpés d'avoir tenté de changer la nature de l'État. Mais qu'est-ce que la politique sinon de changer la nature de l'État? De quoi parle-t-on? C'est une manière de dire, si vous faites de l'opposition, c'est illégal. Quand on voit les procédures judiciaires et la manière avec laquelle elles sont totalement instrumentalisées, la justice a perdu toute indépendance. Et au final, le président règle ses comptes avec ses opposants. Ça ressemble beaucoup à Ben Ali. Les acquis de 14 ans de révolution ont été jetés à la poubelle.
Des propos recueillis au micro RFI de Paul Lorgerie. Des milliers d'Américains dans la rue contre Donald Trump. Pas de roi en Amérique ou résistant à la tyrannie, pouvait-on lire sur des pancartes à la manifestation new-yorkaise. Dans les 1400 rassemblements recensés, les manifestants ont particulièrement dénoncé la politique anti-immigration de la Maison-Blanche, alors même que la Cour suprême vient de suspendre les expulsions de migrants vénézuéliens. J.D. Vance poursuit lui sa visite au Vatican. Le vice-président américain doit assister à la messe pascale ce dimanche. Hier, il s'est entretenu avec le numéro 2 du Saint-Siège sans qu'une hypothétique tête-à-tête ne soit évoquée avec le pape. Un déplacement qui risque donc de se finir avec un goût de trop peu pour J.D. Vance, converti au catholicisme il y a 5 ans. Bénédicte Chélini-Pont est professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille.
Je pense qu'il souhaitait rappeler à tout un chacun son engagement spirituel, réaffirmer le fait qu'il était catholique, puisque ça fait partie, si vous voulez, de sa panoplie d'hommes politiques et de vice-présidents américains, et qu'une grande partie de ses positions se déclare inspirée par sa foi catholique. Donc, en agissant ainsi, il se montre dans son identité de catholique, mais en même temps, s'il avait pu avoir une photo avec le pape, cela aurait certainement contribué à asseoir sa propre légitimité, à utiliser la religion catholique dans son parcours et dans son idéologie politique.
Bénédicte Chélini-Pont, spécialiste des États-Unis et professeur à l'université d'Aix-Marseille. Toujours aux États-Unis, la Maison-Blanche dégaine les permis. Des permis pour 10 projets miniers qui ont été validés par l'administration américaine. C'est ainsi une nouvelle illustration de la volonté de Donald Trump d'accroître la production de minerais minerais essentiels aux États-Unis. L'une des plus grandes exploitations minières de cuivre a d'ailleurs obtenu un statut de projet prioritaire. Alexis Bédu.
Seulement 10 projets aux États-Unis bénéficient de ce statut appelé FAST 41. C'est une loi promulguée d'ailleurs par Barack Obama et qui permet de simplifier certains processus d'approbation. Aux côtés du projet Résolution, on trouve une mine de lithium au Nevada ou encore un gisement de charbon en Alabama. La mine de cuivre, elle est détenue par les deux plus grandes sociétés minières du monde, Rio Tinto et BHP, qui estiment que le gisement serait capable de fournir un quart de la demande intérieure annuelle au cours des 40 prochaines années. Une mine d'or rouge en quelque sorte pour les multinationales, d'autant que la demande mondiale de cuivre explose avec les processus de décarbonation. Mais le projet se heurte depuis de nombreuses années à la contestation de groupes autochtones locaux qui affirment que le projet est situé sur un territoire sacré. Dernier épisode en début de semaine, une pétition a été déposée devant la Cour d'appel des États-Unis pour contester une décision qui pourrait autoriser le développement de la mine.
Alexis Bédu du service économie de RFI. En France, le visage des écologistes ne change pas. Marine Tondelier a été réélue dès le premier tour à son poste de secrétaire national du parti. Les 14 000 adhérents du parti étaient invités à voter cette semaine. Et Victorien Viaume, l'écologiste, a donc obtenu 73% des suffrages.
Un tel score avec trois concurrents en face, assez rare dans la vie d'un parti, se félicite Marine Tondelier, qui a donc largement convaincu malgré des critiques en interne. La concurrence lui reprochait l'échec cinglant aux européennes et la récente modification des règles du scrutin.
C'est pas moi qui voulais changer les statuts. C'était un débat persistant dans le parti depuis 10 ans. Moi, j'ai mené à bien un projet qu'on m'avait demandé. Et c'est pas moi non plus qui les ai écrits. Ils ont été écrits au consensus avec des gens de diverses sensibilités.
Marine Tondelier a désormais en ligne de mire la convention d'investiture des écologistes les 26 et 27 avril prochains.
Si vous attendez des scoops politiques de ma part, eh ben, il faut revenir le 26 parce que c'est là qu'auront lieu mes premières annonces en tant que secrétaire nationale.
La secrétaire nationale des écologistes sera notamment attendue au tournant sur la stratégie à la présidence de 2027, une primaire est-elle indispensable? Peut-elle se faire sans Jean-Luc Mélenchon? Et sur la stratégie des municipales de l'an prochain, on la connaît déjà en partie, revendiquée de travailler avec tout le monde à gauche.
Victorien Viaume, un mot de sport et de football avec le résultat des demi-finales allées de la Ligue des Champions africaines. C'est très simple, aucun but, 0-0 entre les Mamelodi Sundowns et Al Ahly. Même score nul et vierge entre les Orlando Pirates et Pyramids. Tout reste donc à faire lors des matchs retour qui sont prévus vendredi dans 5 jours.
RFI, toute l'actualité.
Simon Bourtembourg.
RFI 4h12 en temps universel. Dans une vingtaine de minutes, votre prochain rendez-vous avec l'actualité africaine. Mais avant ça, nous sommes encore ensemble avec au programme un reportage à Wolfsburg, au siège de Volkswagen. Le premier constructeur automobile européen s'organise, nous le verrons, pour contourner les nouvelles taxes américaines de 25%. Comme tous les dimanches, votre chronique défense consacrée cette fois à la nouvelle méthode du commandement militaire en France. Nous serons aussi au Muséum National d'Histoire à Paris qui accueille en ce moment une grande exposition consacrée au désert. Et puis Corinne Mandjou reçoit la créatrice de The Sorority, une association pour sécuriser les femmes à travers le monde. Et on s'intéresse donc ce matin aux conséquences des nouveaux droits de douane américains sur l'automobile. Les véhicules étrangers vendus aux États-Unis se voient imposer une taxe de 25% supplémentaire. Alors pour le premier constructeur européen, Volkswagen, qui vend 1 million de véhicules aux États-Unis par an, c'est une très mauvaise nouvelle. Fort de ces 10 marques, le groupe envisage même de relocaliser une partie de sa production aux États-Unis. Pascal Thibault s'est donc rendu au siège du groupe à Wolfsburg pour savoir comment la population et les salariés perçoivent cette mauvaise nouvelle.
À l'arrivée à la gare de Wolfsburg, la vue est imprenable sur le gigantesque site de Volkswagen, l'équivalent de 650 stades de foot. De l'autre côté, la ville avec son charme d'après-guerre, très discret. En cette journée printanière, de nombreux retraités prennent le soleil sur des bancs de la zone piétonnière. Ils ne sont pas menacés par les droits de douane, mais concernés. Volkswagen fait partie de leur ADN, comme pour cet Italien d'origine, Nicola Motta, qui a fait toute sa carrière dans l'entreprise.
Volkswagen, c'est tout pour moi. Regardez le dos de mon téléphone. Là, c'est mon village en Calabre et en dessous, l'usine de Wolfsburg.
Le retraité est fier de ses deux fils, tous les deux ingénieurs chez Volkswagen à Wolfsburg et en Chine, mais également inquiet pour eux.
Si ça va mal pour Volkswagen, ça nous concerne aussi. On s'inquiète avec ce président américain. Nous n'avons pas confiance en lui. Le matin, il dit blanc, à midi, noir et le soir, autre chose.
L'ingénieur Thorsten Bleibaum travaille depuis 30 ans chez Volkswagen. Pour lui, la crise sociale de l'automne dernier était bien plus grave que les droits de douane américains d'aujourd'hui.
Je ne peux pas confirmer dans mon entourage le pessimisme ambiant dans les médias actuellement, même s'il peut être justifié. Pour beaucoup, ces droits de douane, c'est beaucoup trop abstrait. Je ne crois pas que cela soit si dramatique.
Au café Pinocchio, Silvestro Gurrieri sirote un espresso. Ce Sicilien est arrivé dans les années 70 à Wolfsburg, où il a fait toute sa carrière. Membre du Parti social-démocrate et du puissant syndicat IG Metall, Volkswagen est sa deuxième famille.
Ces droits des douanes de Trump sont une catastrophe totale. Ça nous frappe fortement et on s'inquiète. Volkswagen a surmonté la crise de l'an dernier et maintenant, ces problèmes surgissent sur lesquels nous avons peu d'influence.
Alexander Jordan est le nouveau député de la circonscription. Ce chrétien démocrate a fait carrière chez un sous-traitant de l'industrie automobile et connaît bien le secteur.
Les inquiétudes sont palpables, même si la situation reste calme. Il n'y a pas de conséquences directes pour l'instant après l'introduction de ces droits de douane, mais elles se profilent à l'horizon.
Les droits de douane de 25% en vigueur depuis le début du mois pour les voitures exportées aux États-Unis s'appliqueront en mai à 150 produits fabriqués par les sous-traitants du secteur automobile. Pascal Thibault, Wolfsburg RFI.
Un reportage que vous pouvez évidemment réécouter quand vous le voulez sur notre site et notre application. Votre chronique défense à présent, et ce dimanche, nous nous intéressons au commandement militaire français. L'armée de terre française a reçu pour mission de se préparer à la guerre de haute intensité. Le conflit ukrainien a donc changé la donne pour les soldats français et les ordres se modifient. C'est en tout cas une nouvelle stratégie qui est née. Elle se durcit avec l'ambition de laisser plus d'initiatives à tous les échelons. Le commandement par l'intention, c'est le thème de Ligne de défense avec Franck Alexandre.
Le commandement par l'intention n'a rien d'une formule creuse, dit le général Schill, chef d'état-major de l'armée de terre. Le commandement par l'intention est même au cœur de la réforme, à l'œuvre pour le modèle d'armée de terre de combat 2025.
Mon ordre principal, c'est penser opération, penser effet opérationnel. D'où cette injonction vers l'armée de terre d'ajuster son style de commandement, ses méthodes de commandement vers ce commandement par l'intention, c'est-à-dire donner le sens, laisser le pari de l'intelligence et puis être au rendez-vous sur l'objectif.
L'intention, soit dire les choses de manière claire et courte pour donner le cadre de l'action, mais chaque subordonné conserve une prise d'initiative possible afin d'atteindre l'effet majeur de son chef.
C'est clair que c'est une méthode qui doit s'appliquer à tous les niveaux. Cette notion de sens à donner, la façon dont on attend que tout soldat, quel que soit son niveau, puisse inscrire son action dans une action plus large, qui est l'atteinte de l'intention de son niveau supérieur, ça me semble primordial. C'est clairement une façon de gagner de la vitesse, c'est surtout une façon de gagner de l'adaptabilité, de prendre acte du fait que dans la complexité de la bataille, le plan peut difficilement être posé définitivement d'emblée, et qu'il sera important que chaque niveau puisse exercer son initiative de façon à contribuer à l'atteinte de l'objectif collectif en ayant compris l'intention, le pourquoi de l'action et de la mission qu'il a reçue.
Les ruptures technologiques, la multiplication des capteurs, estime Pierre Schill, ne permettront jamais aux états-majors d'être omniscients. Face au déluge de feu d'un conflit moderne, les troupes auront toujours l'absolue nécessité de se disperser.
Il pourrait y avoir une illusion que un jour on aura des systèmes de commandement tellement puissants qu'on saura en permanence où se trouve chacun et que un commandement tout à fait central pourrait donner des ordres à chacun des soldats sur le champ de bataille, un peu comme on le ferait dans une équipe cycliste. Je pense que c'est une illusion fondamentale. C'est une illusion parce que les unités militaires et surtout dans les guerres qui sont potentiellement celles auxquelles nous aurons à faire face appellent des unités de plus en plus nombreuses. Le brouillard de la guerre, la rugosité du terrain font que on pourra jamais diriger et avoir la totalité de la perception des sentiments de chacun des soldats. Et donc, des échelons de responsabilité, de commandement intermédiaire devront continuer à exister. Régiment, compagnie, section, brigade, etc.
Pour remporter la victoire, le dernier des soldats comme le premier des généraux doit avoir la compréhension de la mission de l'échelon supérieur. L'initiative individuelle, insiste le général Pierre Schill, passe donc par le commandement, par l'intention.
La chronique défense signée Franck Alexandre.
C'est dans ta nature.
RFI 6h19 ici à Paris, la capitale française qui accueille en ce moment une grande exposition sur le désert. Les déserts où les conditions de vie sont extrêmes. Alors pour survivre dans ces environnements arides, la faune a développé des stratégies que dévoile l'exposition désert au Muséum National d'Histoire. Florent Guignard.
Il y a de la vie dans les déserts, en revanche, ce qui manque c'est l'eau, c'est d'ailleurs ce qui définit un désert, moins de 20 mm de pluie par an dans le Sahara par exemple. Mais l'eau c'est la vie, alors les animaux ont des stratégies pour survivre que nous raconte Anthony Herrel, chercheur CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle où se tient l'exposition désert. Et de l'eau, il y en a d'abord dans la nourriture.
L'excès de nourriture, l'excès d'énergie va être stocké en forme de gras, on peut penser aux bosses de dromadaire. Le métabolisme du gras va libérer de l'eau pour l'organisme, ce qu'on appelle de l'eau métabolique, qui donne une ressource supplémentaire en gros.
On ne va plus regarder son gras de la même manière. Les rongeurs, eux, sont friands de graines.
Et dans les graines, il y a de l'eau. En plus, ils vont stocker les graines dans un terrier. Et dans le terrier, c'est beaucoup plus humide qu'à la surface. Et donc, les graines vont se saturer en eau. Et donc, ça donne des ressources supplémentaires pour l'animal.
De l'eau, il y en a aussi dans l'air, dans certains déserts, comme le désert du Namib en Afrique australe, où vit un scarabée, le ténébrion, l'un des insectes les plus rapides au sol pour ne pas brûler ses pattes.
Juste au long de la côte du Namibie, il y a un courant d'eau froide qui passe, qui va évaporer de l'eau. Et donc ça va donner de la rosée le matin. Et donc le ténébrion, il va se mettre en haut des dunes, avec la tête en bas. Et sur la carapace, il y a des microstructures qui vont faire condenser l'eau. Et ça va être amené vers la bouche de l'animal. Et donc il va pouvoir boire de l'eau qui est présente dans l'air.
On s'arrête enfin devant un moloch, un gros lézard d'Australie couvert d'épines.
L'eau va condenser sur ses épines, mais pour lui, c'est pas assez pour vraiment boire, pour vivre de ça. Mais il a une deuxième stratégie qui est assez intéressante, c'est qu'il arrive à remonter l'eau qui est présente dans le sable via un réseau de capillaires jusqu'à sa bouche. Donc après une pluie, il va juste se poser dans le sable mouillé et l'eau va automatiquement remonter jusqu'à la bouche de l'animal et va pouvoir boire de l'eau qui n'est plus présente sous forme liquide.
Quand l'eau est rare, il faut prendre sur soif.
Oh, c'est l'eau, qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau.
Trouver de l'eau, c'est bien, mais comment faire pour ne pas en perdre?
Alors, ça peut paraître paradoxal, mais la fourrure est une bonne protection qui retient la transpiration. C'est le cas pour les chameaux, deux bosses, et les dromadaires, une seule bosse. La respiration des camélidés fonctionne aussi comme une climatisation. Leur système nasal permet de rafraîchir l'air humide expiré et au contact de la chaleur, la vapeur d'eau se condense et peut être récupérée. Les insectes et les vertébrés du désert récupèrent l'eau de leur tube digestif et font un caca tout sec. La gerboise, elle, a une urine très concentrée, 5 fois plus que les humains. Il ne faut rien gâcher jusqu'à la dernière goutte.
Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau.
Florent Guignard, vous aurez peut-être reconnu la chanson « L'eau » de Jeanne Chéral.
Vivre ailleurs.
On se plonge à présent dans la vie des Français de l'étranger, des Français qui sont souvent amenés à s'expatrier dans le cadre de leur carrière professionnelle. C'est le cas de Priscilla Routier-Triard qui s'est installée à Dubaï en 2019. Elle a lancé l'application The Sorority pour assurer la sécurité des femmes et des minorités sexuelles. Priscilla Routier-Triard revient sur son parcours d'entrepreneuse avec Corinne Mandjou.
Je suis la fondatrice de The Sorority, une communauté d'entraide qui permet d'assurer notre sécurité partout et à tout moment.
La sécurité des femmes.
Des femmes, des personnes issues des minorités et de plus en plus d'hommes qui vivent des actes de violence, donc actes d'homophobie, violence conjugale, intrafamiliale, attouchement, harcèlement.
Vous êtes une des lauréates des trophées des Français de l'étranger.
J'ai l'honneur d'avoir le trophée coup de cœur, du coup, qui est un nouveau trophée avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Qu'est-ce qui vous a amené à Dubaï ?
C'est mon mari que j'ai suivi, du coup, qui n'est pas influenceur, je le pose tout de suite, qui travaille dans un grand groupe français. Et du coup, on a une opportunité d'expatriation durant 3 ans à Dubaï. On est revenu en France 1 an. Et là, ça fait plus d'un an qu'on est sur Abu Dhabi, à présent, donc toujours aux Émirats. Et on adore.
Vous avez The Sorority et Save You. Comment ça fonctionne?
Donc The Sorority, c'est pas ce jour plus de 270 000 personnes partout dans le monde, tout est entièrement gratuit. On est traduite en 16 langues et en fait on s'entraide face à toute situation d'isolement, de violence ou de harcèlement. Donc concrètement, si on est suivi dans la rue, s'il se passe quelque chose dans les transports en commun, à l'école, harcèlement, cyberharcèlement, attouchement, ça peut être au bureau, ça peut être en soirée, en festival ou chez soi, dans les cas de violence conjugale ou intrafamiliale, ou ça peut être en déplacement, que ce soit à titre personnel ou professionnel, n'importe où dans le monde, on peut faire appel à cette communauté d'entraide. Quand on lance l'alerte, en moyenne, on a 10 à 15 prises de contact. Donc ça va très très vite, on n'est jamais seul. Et notre spécificité, c'est qu'on a recréé un réseau associatif dédié à l'aide aux victimes, on a plus de 1000 associations qui sont référencées. On est conventionné avec le ministère de l'Intérieur, donc Direction Générale Gendarmerie Nationale, Police Nationale, Préfecture de Police, avec les plus grands réseaux d'aide aux victimes partout dans le monde. On va conventionner avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui va permettre d'intensifier les liens. Et dans cette chaîne d'action, donc on a les autorités avec nous, les collectivités et le privé. Mmh. Et l'idée, c'est que massivement, on communique sur le fait que face à toutes les formes de violence, les personnes ne sont jamais seules, quoi qu'il arrive, et tout restera entièrement gratuit pour elles, peu importe qu'elles soient victimes ou témoins, elles n'ont pas à payer pour ce soutien. Et SaveU, c'est une plateforme qui utilise The Sorority, concrètement, pour trouver des associations, des personnes à côté, etc. Mais en plus, on a un pôle de 20 écoutantes de formation psychologue, psychiatre, assistante sociale, qui ne vivent pas forcément en France, qui ont une expérience d'expatriation. Et nous, c'est catégorique, il faut qu'elles aient vécu au moins une fois à l'étranger, parce qu'on ne donne pas les mêmes conseils quand on a vécu qu'en France et qu'on a vécu, par exemple, au Maroc, on ne va pas dire faire un dépôt de plainte. Non, ça ne se passe pas comme ça, ça peut être très, très dangereux pour la personne. Et du coup, donc, on a une vingtaine d'écoutantes qui vont faire une première écoute active, et selon ce que souhaite la personne, on va la rediriger vers des associations locales, vers un soutien psychologique, soutien juridique, ou parfois on organise des rapatriements d'urgence avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, etc.
Et qu'est-ce qui vous a motivé ?
Donc The Sorority, j'ai eu l'idée en 2019. Je faisais mon deuxième burn-out. Je travaillais dans un grand groupe dans le milieu tech. J'ai été soutenue à ce moment-là par ma médecin traitant qui m'a dit « je te crois ». Et je suis là, et tant que tu n'iras pas mieux, en gros, tu n'y retourneras pas. Et ce soutien en fait que j'ai eu m'a vraiment fait respirer de nouveau. J'ai eu ce nouveau souffle. Je me suis dit, mais en fait, quand on fait face à n'importe quelle situation d'isolement, de violence ou de harcèlement, à partir du moment où on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a des personnes autour de nous qui peuvent nous aider à avoir cette main tendue ou des professionnels, bah, ça permet de mettre un premier pas dans cette porte et de faire au moins la moitié du chemin et de se faire aider au fur et à mesure dessus. Et la partie SaveU, du coup, arrive avec le temps où je suis expatriée à ce moment-là. Je suis à Dubaï. Je suis pas en situation de violence, mais je vois que sur mon visa, il y a marqué housewife, alors que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Je ne peux pas ouvrir un compte bancaire, je ne peux pas répondre à la banque, et je me dis, waouh. Les violences sont difficiles dans le monde entier. Quand c'est dans des grandes villes, compliquées, zones rurales, très compliquées. À l'étranger, très très compliquées. Il y a les lois du pays qui sont pas les nôtres. Il y a les lois religieuses. Il y a le réseau où tout le monde se connaît, à qui est-ce qu'on va parler. Et on est plus que jamais isolé. Il y avait rien qui existait pour soutenir ces familles qui se sentaient profondément seules. Des fois, ça faisait des années qu'elles l'étaient. Et à ce jour, via The Sorority et notre plateforme SaveU, on a mis en sécurité plus de 450 familles établies dans le monde qui vivent des actes de violence conjugale intrafamiliale.
Le témoignage de Priscilla Routier-Triard au micro RFI de Corinne Mandjou.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, X et Instagram.
Ce sera tout à l'heure, comme tous les dimanches sur RFI, l'atelier des médias avec Steven Jambot à 11h10 temps universel. Au programme, un entretien avec Maud Benakcha, journaliste à Libération et notamment en charge du Climat Libé Tour, un tour de France des enjeux de biodiversité et de climat.
Je fais plein d'ateliers de médiation auprès des jeunes à travers les différents événements que j'organise et je passe beaucoup de temps à écouter ce qu'ils ont à me dire. Déjà à sentir la défiance qu'ils ont envers le journalisme ou simplement un désintérêt. Et donc à partir de ça, je construis mes événements. J'entends quand on me dit qu'il y a une mauvaise représentation des personnes qui sont dans leur entourage, des personnes racisées, des personnes qui se sentent pas légitimes à parler et notamment d'écologie alors que même que ça touche tout le monde. Et je vais réfléchir au format et pas me dire, ok, je suis journaliste, donc moi, mon sujet, c'est d'interviewer des personnes de manière très formelle et très carrée autour d'une table et c'est tout. Et je vais essayer de trouver d'autres choses.
L'écologie est d'une certaine façon presque un prétexte parce que c'est un sujet qui les englobe tous, en fait.
Oui, exactement. C'est complètement ça. C'est de comprendre que l'écologie, ça ne va pas se centrer uniquement sur le fait d'interviewer des scientifiques. C'est nécessaire. C'est primordial, on le fait, mais par contre, ça s'arrête pas là. On va aller chercher des personnes qui vont pouvoir nous parler d'écologie via l'art, via les entreprises, essayer d'avoir tous les partis politiques, ce qui est pas simple, et de pouvoir mettre, en fait, le maximum de personnes autour de la table. Ce que je trouve assez bien, c'est qu'en fait, on peut tester des choses. Comme on bouge, et ben, en fait, on peut s'amuser à croiser des gens qui se rencontrent pas forcément habituellement dans les studios de radio, de télé, et de leur dire, ok, je pense que vous avez des choses en commun, et on va vous faire rencontrer. Ça, c'est assez fou.
Maud Benakcha, journaliste à Libération. Entretien complet tout à l'heure à 11h10 en temps universel dans l'atelier des médias. C'est ainsi que se referme cette demi-heure d'information. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde. Dans un peu plus d'une minute, maintenant, le retour de l'actualité africaine sur RFI.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Hamid Mokadem qui publie « L'histoire dira si le sang des morts demeure vivant » ou comment un philosophe français d'origine algérienne ancré en Nouvelle-Calédonie revient sur la figure de Djoubeli Wea, l'assassin de l'indépendantiste kanak Jean-Marie Djibaou.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Tout à l'heure, à 15h10 TU et en podcast sur RFI.fr.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.